Bonsoir. La Commission économique et financière de l'Assemblée nationale va rendre son rapport sur l'examen du budget exercice 2020 à la plénière de cette institution dans 48 heures. En principe, il ne reste que deux semaines pour que les deux chambres du Parlement adoptent ces projets de budget avant de l'envoyer au président de la République pour promulgation. Ces budgets jugés recevables le 20 novembre dernier par l'Assemblée nationale est évalué à environ 10 milliards de dollars américains, dont 30% sont destinés aux secteurs sociaux de base. Quelle analyse faire de ce projet de budget? C'est le débat de ce soir et dans cette émission, nous avons Muindo Nzangi, le député national de l'opposition, élu de Butembo au Nord Kivu et cadre du MS. Il est membre de la commission économico-financière de l'Assemblée nationale et président de la sous-commission rétrocession aux provinces. Bonsoir honorable Muindo Nzangi.
Bonsoir à tous les hôtels Radio Kapi et bonsoir à toi.
Urbain Ilunga, stratège, spécialiste en politique économique et technicien en management stratégique et opérationnel des projets. Bonsoir, monsieur Urbain Ilunga.
Bonsoir, monsieur.
Et lui, il est au téléphone, c'est le professeur Emmanuel Mukundi. Il est député national élu de Nyuzu dans la province de Tanganyika. Il est cadre du FCC. Il est aussi professeur à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. Bonsoir, professeur Emmanuel Mukundi.
Bonsoir, merci.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous le disions au début de l'émission, dans 48 heures, la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale rendra son rapport sur l'examen des budgets, du budget exercice 2020 à la plénière de la Chambre basse du Parlement. Ces budgets jugés recevables le 20 novembre dernier par l'Assemblée nationale est évalué à 10 milliards de dollars américains, dont 30% sont destinés aux secteurs sociaux de base. Après la présentation du dit projet de budget par le Premier ministre le 19 novembre dernier, un débat de plus de 4 heures s'en était suivi. Les députés, tant de la majorité que de l'opposition, avaient plaidé pour l'augmentation des budgets alloués à la santé, à la recherche scientifique et à l'agriculture. Pour d'autres, il faut réduire davantage les trains de vie de l'État et les budgets alloués à la rémunération du personnel politique, des agents et fonctionnaires de l'État. Michel Kifinangoy pour les détails.
Saluant les mesures de lutte contre la corruption et le coulage des capitaux, Moïse Nyarugabo plaide pour la pacification de l'Est du pays, alors que Christelle Vuanga soutient l'amélioration des conditions de vie des hommes en uniforme. Henri Thomas Lokondo, Félix Kabangenumbi et Fidel Likinda regrettent plutôt la diminution du budget alloué à la santé. Fidel Likinda.
Nous ne demandons pas l'augmentation, mais appliquer seulement le 10% là, dans le taux d'accroissement des recettes, vous allez voir. Mais quel paradoxe. 2019, 10,69%. Et 2020, vous réduisez le budget de la santé à 5,60%.
Christophe Lutundula, lui, plaide pour la mise en place d'une commission devant fixer le barème salarial.
Il y a trop de disparités et tout cela crée un climat malsain. Ça renforce la fracture sociale. L'idée que les Congolais se font des dirigeants qui se servent, ils ne veulent pas servir la population. De manière définitive, on crée une commission qui fixe des grilles harmonisées, ne fût-ce qu'à fixant les maxima et les minima, du président huissier, tous ceux qui sont dans les sociétés d'État, organismes et établissements publics.
Plusieurs autres députés, comme Adel Kainda, ont estimé qu'1% ne suffit pas pour relancer l'agriculture, la pêche et l'élevage.
Merci à vous, Michel Kifinangoy. Professeur Emmanuel Mukundi, député national élu de Nyuzu dans la province du Tanganyika. Vous êtes cadre du FCC. Vous êtes aussi professeur à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa. Vous avez participé au débat à l'Assemblée nationale au sujet du projet de budget 2020. Deux thèses se sont dégagées. L'une selon laquelle c'est un budget fantaisiste, irréaliste, et l'autre qui parle d'un budget plutôt réaliste. C'est quoi votre opinion par rapport à ces budgets, professeur Emmanuel Mukundi?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Vous comprenez déjà que je vais prendre la position réalisme. Je pense que ce budget est réaliste. Tout simplement pourquoi? Parce que lorsque vous voulez faire l'analyse d'un budget, vous avez deux approches. Vous faites premièrement l'approche globale, qui consiste à faire une analyse comparative dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, vous pouvez comparer le budget de la RDC par rapport à d'autres pays. Ça, c'est dans l'espace. Vous pouvez les comparer, le budget d'aujourd'hui, et les budgets des années passées. Ça, c'est dans le temps. Deuxièmement, il y a cette analyse qu'on peut faire à l'intérieur du budget, par composante. Et là, vous voyez comment il y a des ventilations en recettes comme en dépenses, et pour en fin de sorte à faire ressortir le solde. Alors, quand vous prenez ce budget, vous faites l'analyse, n'est-ce pas, globale. Vous vous rendrez compte que, j'ai fait l'analyse temporelle, M. Laurent Désiré Kabila est entré au pouvoir, il a trouvé un budget de moins de 5 millions de dollars américains. Je le dis bien. Je dis bien de 500 millions de dollars américains. Joseph est entré au pouvoir, c'est un budget qu'il a trouvé d'à peu près 500 millions de dollars américains. Et Joseph est parti, il a laissé autour de 5 milliards de dollars américains. Et aujourd'hui, nous avons un projet, ce n'est même pas encore un budget, nous avons un projet de 10 milliards de dollars américains avec le gouvernement Sylvestre et le président Félix. Ça voudrait dire quoi? Ce budget traduit un choix fort qui correspond à l'ambition, qui correspond à la grandeur et même qui correspond, n'est-ce pas, aux ambitions de notre pays. Et donc, si nous acceptons que le budget de 10 milliards est fantaisiste, ça voudrait dire que nous voulons réduire la grandeur de notre pays, alors que tous nous savons que ça c'est un grand pays. Il suffit de prendre des mesures d'encadrement, il suffit de prendre des mesures dissuasives, il suffit de prendre beaucoup d'autres mesures, il y a moyen de réaliser ces 10 milliards. Donc, pour moi, si je peux répondre à votre question, les budgets de 2020, les projets du budget de 2020, il est réaliste. Il est parce que la République démocratique du Congo, s'il faut comparer avec d'autres pays, ne mérite pas avoir un budget moins que ça. D'ailleurs, le 10 milliards, c'est encore peu. Parce que moi, je me dis, si on peut aller avec ces rythmes, en respectant le principe de la bonne gouvernance, en respectant le principe de l'encadrement dans la mobilisation des recettes, admettons qu'on multiplie par 3, juste par 3, d'ici 2023, donc on aura un budget de 30 milliards de dollars américains. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a une lueur d'espérance, une lueur d'émergence de notre économie. Et donc, nous avons besoin de ça. Et si je peux entrer dans l'analyse interne, c'est-à-dire par composante, si vous le permettez, c'est un budget qui répond, n'est-ce pas, aux ambitions, qui répond, n'est-ce pas, aux attentes de la population. Au jour d'aujourd'hui, si vous suivez notre population, ça fait très longtemps qu'on disait « les sociales, c'est quand ?» Les sociales, c'est quand ? Mais avec ce budget qui traduit effectivement le programme du Premier ministre, lequel programme est basé sur l'ambition sociale, vous allez vous rendre compte que c'est un budget qui répond à ce que notre peuple attend. Si vous prenez par exemple les innovations, oui, je vous écoute.
Oui, nous allons revenir sur cette analyse comparative, mais s'il faut revenir au début de la démarche, n'est-ce pas, qui a abouti à l'élaboration de ce budget, parce qu'en fait l'émission est aussi pédagogique. Initialement, le Conseil des ministres avait tablé sur un projet d'environ 7 milliards de dollars, mais après, ça a été revu à la hausse. On est passé de 7 milliards à 10 milliards de dollars. Et le vice-premier ministre chargé du budget avait justifié cette hausse par notamment les différents rapports de la FEC et aussi l'étude qui avait été faite à l'époque par les conseillers spéciaux de l'ancien président de la République. Les deux rapports, n'est-ce pas, font état des recettes importantes qui échappent chaque année au trésor public. Comment vous avez apprécié les arguments avancés par le vice-premier ministre du budget pour justifier cette hausse quand il se base sur les études faites par la FEC et l'ancien conseiller spécial du chef de l'État?
Mais mon frère, ça c'est indéniable, c'est tout à fait indéniable, c'est clair, même celui qui n'a pas fait l'économie, il suffit qu'il passe juste aux frontières de notre pays pour voir ce qui se passe. La fraude, c'est vrai, n'est-ce pas, la contrebande, c'est vrai. Le détournement, c'est vrai. La corruption, c'est vrai. Et donc, si, c'est pourquoi je dis, il suffit qu'il y ait des mesures d'encadrement. Des mesures de genre, par exemple, de la traçabilité de produits en ce qui concerne l'entrée à la porte. Des mesures, par exemple, de lutte contre la corruption. Des mesures, par exemple, de lutte contre la contrebande, la fraude au niveau des frontières. Les mesures, par exemple, des pratiques qui concerne à des exonérations qui ne permettent pas à l'État de pouvoir encaisser ses ressources. Donc, en prenant toutes ces mesures-là que j'ai appelées les mesures d'encadrement, il est possible d'aller à 10 000 et même si on peut encore forcer, on peut aller au-delà des 10 000. Donc, aujourd'hui, des 10 milliards, voulais-je dire. Donc, aujourd'hui, moi, je dis, le budget est réaliste et si le gouvernement pouvait s'arrêter à 7 milliards, nous, au niveau du Parlement, je crois qu'on pouvait pousser davantage pour aller jusqu'à 10 milliards et pourquoi pas au-delà des 10 milliards.
Voilà, vous parlez des mesures qui doivent être prises, n'est-ce pas, pour encadrer la collecte de ces fonds. Parce que vous avez fait une analyse comparative, vous avez évoqué 500 millions laissés par Moussa Laurent-Désiré Kabila, 5 milliards laissés par Joseph Kabila, et aujourd'hui avec Félix, nous sommes à 10 milliards de dollars américains. Et, professeur, on sait que le pays a connu à une certaine période une croissance économique qui avait frôlé, n'est-ce pas, le deux chiffres, et à l'époque des premiers ministres Adolphe Mouzito et Augustin Matata Ponyo, et croissance qui était consécutive, n'est-ce pas, au boom minier. Mais en dépit de cette croissance, professeur, vous rappelez que nous n'avons jamais pu élaborer un projet de budget qui atteint ces chiffres de 10 milliards de dollars. Et aujourd'hui, curieusement, c'est au moment où, n'est-ce pas, la situation économique semble morose, avec la chute notamment des cours de cobalt, que l'on ambitionne de réaliser un budget de 10 milliards de dollars américains, vous pensez que c'est réaliste, et ça?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est quand même l'erreur de conception de notre économie. On ne peut pas arrimer l'économie toutes les années, n'est-ce pas, aux mines. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas que les mines qui peuvent vous donner les recettes. Et demeurer dans cette optique, voyez-vous, nous avons commencé avec cette optique depuis la Deuxième République, parce que si vous prenez les chiffres des années 60, vous allez vous rendre compte, notre économie n'était pas basée seulement sur les mines. Notre économie était basée sur l'agriculture, notre économie était basée sur autre chose. Et même le tourisme faisait entrer des recettes dans notre économie. Donc au jour d'aujourd'hui, continuer à penser que nous allons nous développer grâce à la manne minière, à la manne minière, c'est une erreur. Voilà la raison pour laquelle, si vous avez bien suivi les programmes du Premier ministre Ilunga, il a amené l'économie vers sa diversification. Et il est possible d'amener l'économie vers sa diversification, tout simplement parce que la République démocratique du Congo ne manque pas de terres pour cultiver. Les terres sont là. Il suffit de prendre des mesures qu'il faut pour pouvoir, n'est-ce pas, amorcer l'agriculture ou la booster davantage. La République démocratique du Congo, c'est un site touristique par nature. Donc, il y a beaucoup d'autres secteurs qui peuvent faire que l'on puisse booster la croissance.
Professeur,
je vous en prie.
Tabler sur la diversification de l'économie, c'est une bonne chose, mais lorsque rien n'a été fait, n'est-ce pas, jusque-là pour que cette économie soit diversifiée, est-ce qu'on peut déjà commencer à tabler sur une économie diversifiée alors qu'on ne sent pas cet effort-là pour diversifier cette économie?
Mais nous sommes au début. Quand vous avez suivi le Premier ministre, ça fait seulement 2 ou 3 mois qu'il est passé pour donner son programme. Et ces programmes-là, on les exécute à partir de ces budgets. Donc le premier exercice de ces programmes, c'est ces budgets. L'exercice chiffré de ces programmes pour les 5 ans, c'est ces budgets. Et donc, moi je vous dis, je voulais revenir à votre question. Si vous dites que il y avait la hausse de cours sur le plan international des matières premières, alors qu'on ne peut pas réaliser ça. Mais ça allait où? C'est ça même la problématique. Est-ce que ce ne sont pas des recettes qui entraient au pays? Moi, je dis non. Les recettes revenaient au pays. Et ça partait où? Prenez même le code minier de cette époque-là. Si vous prenez le code minier de cette époque, vous allez vous rendre compte que ce boom minier n'a profité qu'aux étrangers.
Merci. Merci pour ça.
Ce sont des recettes qui étaient rapatriées, ce ne sont pas des recettes qui étaient restées totalement dans le pays.
Merci.
Et le minier qui était dans le pays, c'était dans les poches de certaines personnes. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur les mesures d'encadrement.
Merci.
Des mobilisations de recettes.
Merci, nous allons y revenir. Mouindo Nzangi, député national de l'opposition, élu de Butembo au Nord Kivu et cadre du MS. Vous êtes membre de la commission économique financière de l'Assemblée nationale et président de la sous-commission rétrocession aux provinces. Comment vous jugez ces projets de budget 2020?
Avant d'en arriver au budget, je voudrais être Kelly de Butembo, présenter mes encouragements à toute la population du Nord Kivu qui aujourd'hui, même à ce moment, est victime des actes des EDF, notamment le territoire de Béni, mais aussi la ville de Goma, où je suis élu, et a été victime des crashs d'avions et de l'insécurité toute la nuit. Le budget qui nous a été présenté, je suis d'accord avec le professeur Emmanuel qui dit que c'était une ambition, il y a une ambition forte de pouvoir avoir un budget très élevé. C'est une ambition partagée par nous tous. Nous savons que la République démocratique du Congo dispose des ressources nécessaires pour faire un budget même beaucoup plus important que ça. Mais la question qu'on se pose, que même le Premier ministre s'est posé à l'Assemblée nationale, c'est de savoir pourquoi nous ne sommes pas capables d'y arriver. Pourquoi on ne peut pas y arriver, effectivement, puisqu'il y a des problèmes. Et moi, je parle comme membre de l'ECOFIN, il y a des problèmes structurels. Il y a des problèmes du système, les systèmes de récolte d'argent, c'est un système vicié. Et donc,
il faut toucher à ce système, il faut réviser, il faut réformer les choses.
Il faut une vraie réforme des finances publiques, surtout au niveau de la collecte des recettes. Nous sommes restés le seul pays au monde qui fonctionne encore avec plus de 3 régies, puisque aujourd'hui nous avons pratiquement 4 régies, la DGE, la DGI, la DGRAD, l'OFIDA. Alors que tous les autres pays du monde ont déjà changé de système pour avoir une seule régie qui récolte l'argent de l'État. Aujourd'hui, vous déclarez votre marchandise à l'entrée, si c'est à la frontière, vous allez payer, même dans les systèmes sidoniens, vous allez payer plus de 14 prestataires. Donc vous payez 20 000 dollars américains à la douane. Il n'y a que 5 000 dollars américains qui sont pour le trésor. Le reste, c'est FPI, c'est OGFREM, c'est OCC. À l'intérieur, c'est greffé de beaucoup de choses. On ne sait pas l'argent de l'OCC va où, OGFREM qui prend. Tout ça, c'est pour vous dire qu'à l'intérieur du système de récolte des fonds de l'État, c'est déjà biaisé.
C'est un budget réaliste, mais à condition que ces préalables soient...
Je voudrais vous dire que c'est un budget réalisable. Mais, au stade actuel, où on ne voit pas venir les réformes, où on ne voit pas des mesures spécifiques de lutte contre la corruption, où on voit que les nouveaux arrivés, eux aussi, commencent par se servir, il est difficile de réaliser ces budgets-là. Puisque moi, je parle de paramètres économiques. Le même système a travaillé en 2018, a travaillé en 2019, avec un budget de 5 milliards, nous n'avons pas été capables de récolter les 5 milliards. Même pour le budget 2019, nous sommes à 80% de réalisation. On nous présente aujourd'hui un budget de 16 000 milliards de francs congolais, donc un budget de 10 milliards de dollars américains, qui est pratiquement l'accroissement de plus de 63%. 63%. Les gens qui n'ont pas été capables de réaliser 5 milliards ont fait un accroissement de plus de 63%, puisqu'effectivement on est à 13 000 milliards, ça veut dire l'équivalent de 8 000 milliards, puisque le reste c'est des recettes extérieures. En tout cas, je suis sceptique. Sceptique s'il n'y a pas, même si c'est réalisable, mais s'il n'y a pas de vraies réformes à l'intérieur du système, s'il n'y a pas de vraies mesures, une volonté de lutter contre la corruption, c'est comme ça que vous trouvez que, quand j'étais à l'Assemblée nationale, quand j'ai parlé de ce dossier, j'ai dit, monsieur le Premier ministre, vous nous dites que vous allez lutter contre la corruption, mais commencez déjà par le premier dossier qui est sur votre table, les 15 millions disparus, on ne sait même pas qui les a pris. Donc, c'est ça que j'ai dit. Donc, s'il n'y a pas de réformes, de vraies réformes, de collecte de fonds, effectivement, ça va poser toujours des problèmes.
Beaucoup de ressources échappent au trésor public. Ça, c'est des notoriétés publiques. Et vous dites que vous êtes sceptique. Mais en proposant un tel budget, certainement que le gouvernement sait comment il va procéder, n'est-ce pas, pour récupérer tous ces fonds qui lui échappent, même s'il n'y a pas tous ces préalables que
vous
venez d'évoquer.
C'est tout le travail que nous avons essayé de faire au niveau de l'ECOFIN, mais on a l'impression que tout le monde vous dit, bon, c'est l'ambition, on va essayer. Il n'y a personne qui est sûr que cet argent va être réalisé. Même les recettes extérieures qui sont dedans, qui ont été bombées, puisqu'on voulait à tout prix avoir 10 milliards, vous voulez poser la question, nous avons évité à l'ECOFIN, le chef de FMI, il vous dit, bon voilà, il y a encore des conditions, il faut les remplir. Et vous sentez, parcours faisant, que ça va être très difficile de les remplir tout à l'heure. Donc, je vais vous le dire, sans vous décevoir, qu'effectivement l'ambition est là. Et nous tous soutenons l'ambition, on veut que ça avance. Mais on ne nous démontre pas les signaux que ça va pouvoir avancer. Mais je ne voudrais pas m'attarder sur la question...
Alors, la démarche rationnelle, c'est laquelle ? Faut-il traduire les ambitions à travers un budget, un projet de budget, ou commencer d'abord par réaliser ces préalables, et notamment des différentes réformes, avant de traduire cette ambition à travers un projet de budget ?
À notre niveau, l'Assemblée nationale, bon, je parle comme député de l'opposition, nous avons dit, nous ne pouvons pas décourager l'ambition. Ce que nous allons faire, c'est nous allons prendre des initiatives pour accompagner cette ambition-là. Donc, nous savons qu'en luttant contre la corruption, nous savons qu'en engageant des réformes profondes du système de collecte des recettes, on peut arriver à les réaliser. Et nous allons nous engager dans cette forme d'accompagnement pour que ces recettes puissent être effectivement réalisées.
30% seulement de ces 10 milliards sont destinés aux secteurs sociaux des bases, ce qui est une chose qui est, n'est-ce pas, dénoncée par beaucoup de gens. Vous êtes en train d'examiner ces budgets au sein de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous ? Est-ce que ce genre de tendances peuvent être renversées ?
Vous savez, il y a un problème technique. Mais en tant que politique, moi je suis député des partis de gauche. Je ne peux que encourager qu'elle puisse investir plus dans le social. Mais faudra-t-il que cet argent soit trouvé? Puisque quel est le danger? Le danger, c'est qu'effectivement, on a mis une masse importante d'argent, de crédit, pour le social, notamment l'enseignement. Mais, si on ne réalise pas ce budget-là, puisqu'on n'a fait que 17% pour les investissements. Si on ne réalise pas les budgets qu'on a prévus, effectivement, le pays, on se contentera que de payer les salaires.
En fait, donc, c'est un budget de consommation.
Et il n'y aura aucun investissement.
Merci, Urbain Ilunga, stratège, spécialiste en politique économique et technicien en management stratégique et opérationnel des projets. Quelle est votre lecture par rapport à ces projets de loi des finances publiques ?
Mon impression, d'abord, se révèle être favorable, théoriquement bien sûr. En tant que Congolais, c'est une satisfaction pour moi d'entendre pour la première fois que nous atteignons ces chiffres-là. C'est quand même satisfaisant. Mais pratiquement, c'est impossible. Nous ne devons pas nous voiler la face qu'on se les dise ouvertement, qu'on se les dise clairement. Moi, je crois que c'est un budget irréaliste. Nous n'avons pas besoin de budget théorique, politique, mais nous avons besoin de budget qui vient régler nos problèmes. Il est difficile que nous parvenions à doubler aujourd'hui avec cette conjoncture économique. À doubler les records en termes budgétaires, passer de 5 milliards à 10, étant donné que la situation économique est morose. La conjoncture économique, les indicateurs sont au rouge. D'abord, au demeurant, j'aimerais dire ceci, l'économie congolaise reste avant tout minière. J'ai entendu les professeurs Mukundi, dénoncer le fait que nous considérions notre économie tout simplement minière. C'est pas que nous qui considérons, mais c'est la définition de l'économie congolaise. Nous sommes avant tout une économie de rente naturelle assise sur la logique extraction-exportation. C'est cette économie-là que nous sommes.
C'est l'évidence.
Nous sommes cette économie qui exporte tout un bateau de grumes pour en échanger avec un conteneur de meubles. Nous sommes cette économie qui exporte des millions de tonnes de cuivre pour en échanger avec quelques pièces de rouleau de fil conducteur de l'étranger. Cette économie qui exporte des tonnes et des tonnes de coltan pour en échanger avec quelques pièces de téléphone de la Chine. Voilà cette économie que nous sommes. Bon, dire que... J'entends toujours dit depuis traditionnellement que nous sommes une économie minière. C'est ça que nous sommes. Comment nous allons refuser? Donc, pour que nous devenions une économie autre que minière, nous devons passer par des réformes. C'est le chemin obligé. Nous devrions commencer, si les gouvernements actuels avaient réellement l'ambition de faire mieux, ils auraient commencé par des réformes. Jusqu'ici, je ne vois pas. je ne vois rien en termes de réforme. Il n'y a aucune réforme structurelle menée jusqu'ici. Parce que les vrais problèmes de l'économie congolaise restent avant tout structurels. Il n'y a pas de réforme. Comment nous, c'est pas de la magie, l'économie, c'est des chiffres. Donner le chiffre, c'est encore bon, mais l'économie, c'est palpable. En fait, c'est touchable. L'économie, c'est une richesse que nous devons toucher par. Les chiffres nous permettent tout simplement de comptabiliser. On paie aujourd'hui même les triplets. On pourrait même parler de 50 milliards de dollars, c'est bien bon. Mais là n'est pas le vrai problème. Les problèmes, c'est la réalisation. Est-ce que serons-nous capables de réaliser ce que nous promettons?
Alors, comment vous réagissez aux arguments avancés par le gouvernement lorsqu'on est passé de 7 à 10 milliards en disant que, en brandissant, n'est-ce pas, ces rapports de la FEC ainsi que l'étude faite par le professeur Luzolobambi qui faisait état, n'est-ce pas, ces deux études de beaucoup de recettes, n'est-ce pas, qui échappent au trésor public, et ça c'est l'argument sur lequel le gouvernement s'est basé pour passer de 7 à 10 milliards.
Monsieur le journaliste, cette phrase n'est pas d'aujourd'hui. C'est une phrase que moi c'est des arguments classiques, traditionnels. Nous en avons entendu autant. Les travaux du professeur Luzolobambi ne datent pas d'aujourd'hui. Le système est demain le même et c'est celui qui continue au volant. Et donc le système n'a pas changé. Luzolobambi a commencé depuis lors. Combien de voleurs attrapés par Luzolobambi? Quelle solution trouver à ces problèmes? Quelle punition donner? C'est l'impunité. C'est le clientélisme. C'est tout ce que nous voulons. En tout cas, si nous voulons bien y arriver, la première chose, c'est d'éradiquer la corruption qu'il y a dans le pays. Aucune économie ne sera décollée à côté de la corruption qu'il y a comme celle qu'il y a dans notre pays. Aucun modèle économique ne pourra marcher à côté de la corruption. Nous savons tous qu'est-ce que la corruption a fait de ces pays, où est-ce qu'elle a amené ces pays. Nous sommes conscients, moi et vous, qu'est-ce que la corruption a fait de ces pays. C'est impossible. Même, peu importe, on peut ressusciter même le plus grand esprit de l'économie. On peut susciter lesquels et les autres, ses amis, ses contemporains, ils vont rien foutre dans un contexte comme le nôtre. Nous devons prendre conscience. C'est une question liée à la conscience collective. D'un peuple, dire non de manière collective à la corruption. Parce que nous en sommes, en amont nous en sommes Dieu, mais en aval c'est elle qui devient Dieu de notre souffrance.
Alors, monsieur Irbain, s'il faut prendre la dimension politique de la chose, face aux attentes, n'est-ce pas, de la population, face, n'est-ce pas, à tous les espoirs, n'est-ce pas, suscités par l'arrivée de Félix au pouvoir, est-ce que le gouvernement n'était pas obligé de proposer un budget de cette taille-là, de 10 milliards de dollars?
Là, ça serait un problème. Si c'est le cas, d'ailleurs, je pense...
Là, nous prenons la dimension politique.
La dimension politique, c'est un problème. Parce que je ne dois pas encourager le mensonge. Ça, c'est mentir au peuple. C'est lui qui nous a amenés au pouvoir. Les peuples souverains, et nous devons beaucoup du respect au peuple. Donc c'est le peuple qui lui a donné du pouvoir, et donc il doit beaucoup à ce peuple. Il peut pas mentir. Nous n'avons pas besoin de formalités. Nous n'avons pas besoin de...
Évidemment, c'est ça. On ne peut pas dire qu'il a menti parce que c'est encore un projet. Il faut maintenant permettre au gouvernement de pouvoir collecter, n'est-ce pas, ces fonds pour réaliser ces 10 milliards.
Je vous dirais, monsieur le journaliste, je doute de notre capacité de mobilisation, notre capacité de collecte. Comme le co-débatteur, le débité venait en train de dire, nos régies financières, je doute très fort de leur capacité de mobilisation de recettes, d'autant plus qu'il y a beaucoup de participation de la main humaine. En tout cas, il est en somme au 21e siècle aujourd'hui qui voudrait normalement que nous passions à la virtualisation de choses. Nos régies financières sont dominées par la participation de la main humaine. Et là, ça pose un problème.
Merci.
Ça pose un problème.
Merci, nous allons revenir à vous.
C'est moins rationnel.
Merci. Professeur Mukundi, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu, au sud Kivu.
Lukingama Bukazu Joseph, à partir de Bukavu. Tout Congolais est ravi de joie de voir le budget de la RDC qui était de 4,5 milliards de dollars à 10 milliards Mais je pense que pour arriver à la concrétisation de ce budget, il faut un contrôle, étant donné que le Congo est voué à des multiples corruptions. Le contraire de ça ne serait qu'une illusion.
Professeur Emmanuel Mugundi.
Oui, merci beaucoup. Je crois que notre compatriote, c'est un Congolais qui vit avec nous au Congo. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de notre pays. Donc, il a réfléchi de la même manière que nous. Je crois que si vous nous suivez, nous tous trois, tels que nous parlons, je salue ici mon collègue l'honorable Nzangi, mon collègue économiste urbain. Donc, la chose, ce n'est pas celle de dire on peut jouer, non. La chose qu'il faut sur laquelle il faut insister, c'est de dire, mais pourquoi on n'est pas arrivé, n'est-ce pas, à réaliser ce que l'on doit réaliser. Ce qui est vrai, monsieur le journaliste, moi je vous dis et je crois qu'il est possible que ces pays, nous puissions réaliser des recettes qui peuvent dépasser 10 milliards, c'est possible. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est celle de savoir pourquoi on n'arrive pas à réaliser ces 10 milliards. Nous avons évoqué, nous tous ici, le mot est clair, c'est la corruption tout simplement. À partir du moment où on peut même, n'est-ce pas, le montrer, l'illustrer par des exemples. Regardez, monsieur le journaliste, vous constaterez que ce sont le privé qui construit beaucoup plus dans des grandes villes. Et quand vous prenez ces privés-là, ce sont des ménages dont le responsable de ces ménages sont agents de l'État. Et si vous prenez ces agents de l'État-là, vous verrez que la plupart, ce sont ceux qui sont au niveau de la grande gouvernance et ce sont ceux qui sont dans le responsable des régies financières et autres. Donc, par où passe le fonds de l'État. Et donc, dire que le Congo ne peut pas réaliser pour ne pas être réaliste, moi je dis non, moi je dis non carrément. Mais moi, pour moi, comme dit les collègues, nous sommes en mesure de pouvoir le faire. Nous sommes en mesure de pouvoir le faire. Et là, je rentre à ce que disait mon collègue Urbain. Quand il dit nous devons refuser d'être une économie de rente, oui, mais il faut le refuser, mon frère. Vous êtes économiste comme moi, il faut le refuser. On le refuse par quoi? Mais l'honorable Nzangi l'a dit, on le refuse par le réforme. On refuse tout simplement par le réforme. Si vous prenez dans les secteurs miniers dont on a parlé tout à l'heure là, avec le code qu'on avait, le précédent code qu'on avait, c'était tout à fait normal que le pays ne bénéficie de rien en ce qui concerne les devises rapatriées. Tout ce que les pays devaient récolter allait ailleurs. Et le miette qui venait au pays était dans le poche, comme je viens de le démontrer. Et donc, la réforme, c'est quelque chose de très important, à part les réformes, parce que les réformes, elles, ont des effets à moyen et long terme, mais à court terme, il y a des mesures d'encadrement qu'on peut prendre. Si aujourd'hui, il faut aller à la numérisation de système de récolte de finances publiques, c'est une réforme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans deux jours, trois jours, dans une année, pas du tout. Mais dans un premier temps, ce sont des mesures d'encadrement.
Alors, professeur Mugundi, quelles sont ces mesures d'encadrement qu'il faut prendre, n'est-ce pas, avant qu'on puisse initier des réformes importantes?
C'est simple, mon frère. Allez à la DGDA, vous allez voir, beaucoup de marchandises qui entrent, elles entrent par l'exonération. Et quand vous regardez l'exonération, est-ce que normalement, ce n'est pas une mauvaise mesure? On exonère si on sait que ce qui entre va aider les sociales. Je donne un exemple. Si ce sont les médicaments qui entrent pour les hôpitaux de l'État, oui, on peut exonérer. Mais au jour d'aujourd'hui, même le marchandise des commerçants, et derrière ces marchandises des commerçants, il y a des hommes qui sont là, les Congolais qui sont là. Et ces Congolais qui couvrent ça. Quand vous prenez cette mesure-là, de casser par exemple les exonérations, ça ne demande pas une longue période.
Merci.
Ça peut se faire. Dans 3, 4, 5 mois, on peut
Merci.
Le faire.
Merci.
Vous allez par exemple à la frontière.
Professeur,
je vous en prie.
Alors, vous dites que ça ne demande pas beaucoup de temps, mais au vu de ce qui se passe maintenant, est-ce que vous pensez que on pourrait prendre ces mesures d'ici là, parce que vous avez suivi l'honorable Moïse Nzangi qui a parlé de 15 millions. Et voilà.
Je peux revenir, monsieur le journaliste, si vous me permettez que je revienne.
Oui.
Pour rejoindre mon collègue Nzangi. Lui qui est du Nord Kivu, il est tout à fait d'accord avec moi, parce que moi aussi je suis de la frontière, il est tout à fait d'accord avec moi. Regardez ce qui se passe à la frontière. Ce qu'on appelle le fractionnement des marchandises. En termes courants, on appelle ça bilingue. Une marchandise qui est de l'autre côté, qui peut entrer par la voie officielle et payer, n'est-ce pas, payer les frais à l'État, les taxes de l'État, mais cette marchandise doit être fractionnée en collaboration avec nos hommes, nos citoyens, nos concitoyens.
Et merci, parmi professeur.
Les responsables, c'est là-même qui sont mis là comme service d'ordre opérationnel aux frontières.
Merci, honorable, et merci.
Si vous calculez tout ce que nous perdons au niveau des Kasumbalesa, des Loufou, de Goma et partout ailleurs, mon frère, on bloque ça. Dans un premier temps, il y a quelque chose qu'on peut récupérer en attendant.
Merci, professeur. Merci, Mouindo Nzangi. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kinshasa.
Je m'appelle Olivier Folo, je suis à Kinshasa. Le budget présenté par le gouvernement de 10 milliards, il faut noter que c'est une première fois dans notre pays d'avoir un budget pareil depuis que le Congo est indépendant et nous devons accompagner le chef de l'État dans sa vision de développement de ces pays par rapport à ces budgets. Nous espérons qu'il a commencé avec 10 milliards et comme il avait promis pendant sa campagne électorale, dans 5 ans, le Congo aura un budget de 80 milliards. Nous espérons avec 10 milliards qu'il a débuté avec, dans 5 ans, il pourra faire mieux. Voilà pourquoi je soutiens le budget actuel présenté par le gouvernement Ilunga Ilukamba. Bien qu'il y a beaucoup d'ententes par rapport à la population, mais ça pourra résoudre des temps soit peu aux problèmes du développement de notre pays.
Honorable Mouindo Nzangi.
Oui, ce n'est qu'une ambition, comme je l'ai dit, mais il faudra que les nouveaux arrivants nous prouvent effectivement qu'ils viennent changer les choses. Mais j'ai l'impression que le premier pas qu'ils ont fait nous démontre effectivement que ça, c'est la continuité, c'est la même chose. Il n'y a rien en termes de réforme qui a été faite. D'ailleurs, quand vous lisez ce qu'ils nous ont présenté, puisque le budget est présenté avec un document de l'exécution de ce qui a été fait, les nouveaux arrivants n'ont pas montré l'exemple. Déjà, la présidence, ses dépenses ont explosé. Et la manière de gérer, c'est plus pire que ce qui sont passés.
Donc la grosse part va dans les institutions politiques.
Donc
toujours.
Oui, comme toujours. Et puis là où je voudrais dire, effectivement, le président de la République a fait des promesses. En principe, ces promesses-là doivent se refléter dans ce budget.
Notamment la gratuité de l'enseignement.
La gratuité de l'enseignement, voilà.
C'est là où pour financer cette gratuité, il faut environ 2 milliards 900 millions, donc environ 3 milliards de dollars américains.
1000 de ça.
Donc les tiers du budget actuel.
Oui. Le ministère de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire a sollicité 4900 milliards. On lui a donné 2700 milliards. Il a dit que s'il a les 4900, il fait la gratuité, on lui a donné pratiquement la moitié. Alors je ne sais pas si cette gratuité qu'on a promise, elle va être faite. Aujourd'hui, le président avait promis aux militaires qu'il va améliorer les conditions de vie. Mais je vous montre le budget de la défense, qui est resté pratiquement le même. Avec la moyenne des salaires des militaires de 144 000 francs congolais, c'est 80 dollars américains, avec la ratio moyenne des militaires de 13 000 francs congolais les mois. Est-ce qu'avec ça, on va bâtir une armée qui va se battre pour ce pays? C'est ça l'ambition. Est-ce qu'avec ça, on est capable de faire face aux défis comme c'est ce que nous vivons à l'est du pays? D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai écrit au chef de l'État à 3 reprises pour lui dire que pour les drames de Béni, la capacité opérationnelle de ceux qui sont à Béni, il faut qu'il fasse venir une armée étrangère. Tu lui demandais de faire venir l'Ouganda, puisque les FRDC, ils viennent de le prouver encore une fois, qu'ils ne sont pas capables de se battre. Pourquoi? Puisqu'effectivement, le problème n'est pas ailleurs, c'est le budget. Si vous voulez avoir une armée forte, vous devez mettre de l'argent dans l'armée. La police, même chose, budget moyen, 130 000 francs congolais. Les salaires moyens. C'est l'agriculture. C'est ce qui est encore beaucoup plus. On donne le discours de dire qu'on veut diversifier l'économie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'agriculture, on a régressé.
Même la santé, pendant qu'on fait face à des épidémies comme Ebola, on réduit le budget.
Pendant que le président a promis qu'il va nous donner un système de santé universel où tout le monde va accéder à la santé, mais qu'est-ce qu'il fait? On diminue le budget de la santé. C'est pour dire que même toutes ces mesures. Par contre, le budget de la présidence double, c'est les institutions. Le budget de la primature double, c'est les institutions. Donc tout cet argent-là qu'on a augmenté dans le budget, ça ne va servir qu'à payer les politiciens, mais les sociaux qu'on a vantés. Il n'est pas dans les budgets que nous sommes en train d'examiner.
Herbe Elunga, vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Boubadolité.
Je suis M. Albert de la Coste de Boumanga. Je vous appelle depuis Boubadolité, dans la province du Nord Ubangi. À mon humble avis, j'ai trouvé que c'est bien bon de passer la base très, très haut, tel qu'a fait notre gouvernement actuel. Alors que nous savons que le budget qui sera voté, il faut que cela soit bien équilibré en recettes et en dépenses. Pendant que nous savons que c'est un pays qui aspire vers l'émergence doit avoir une justice efficace. Mais ici, nous constatons que notre justice est vraiment infiltrée par les autorités qui animent les institutions. Nous demandons à ce que cette loi budgétaire qui sera votée ne soit pas limitée seulement au niveau des votes, mais que cela soit bien accompagné par des mesures très importantes qui feront à ce que la redistribution atteigne tous.
Oui, Ruben Ilunga, votre réaction, en fait, on peut directement passer aux solutions. Hein. L'ECOFIN, dont l'honorable Mouindo Nzangi est membre, est en train de travailler sur ces budgets. Quels sont les conseils, n'est-ce pas, qui vous pourrez essayer de proposer à cette commission pour que l'on puisse nous présenter prochainement un budget étoffé, amélioré?
D'accord. Les conseils que je passe d'abord au gouvernement dans son ensemble, à la présidence, c'est de faire très attention, d'être très prudent, d'être très prudent avec des promesses qu'on fait, parce que ça serait encore mieux de ne pas promettre. De ne pas promettre et réaliser tant soit pas quelque chose que de promettre, de donner une grande promesse de ne pas réaliser. Je me dis, nous parlons de quelques mois tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes déjà, nous sommes au mois de novembre.
À la
novembre.
Fin du mois de D'accord. novembre.
Donc, le 2020, c'est dans quelques jours. 2020, donc, parlons de la réalisation de ces budgets, c'est dans quelques mois. Donc le mensonge va nous rattraper toujours. Donc si j'ai une recommandation à faire à l'ECOFIN et aux institutions qui chapeautent la République, c'est qu'ils soient réalistes, qu'ils nous présentent un budget réaliste et non politique.
Merci. Professeur Emmanuel Mugundi, votre conclusion?
Ma conclusion à moi, c'est je commence par des mesures qu'on peut faire. Sans y aller très loin, d'abord c'est la prise de conscience collective, le collègue l'a dit. Je parlais des mesures d'encadrement, il y a moyen de collecter des recettes à court terme, même à très court terme avec des moyens d'encadrement. Et il y a aussi la gestion basée sur le résultat.
Merci.
Tous ceux qui sont à la tête des régies, s'ils ne sont pas à mesure, il faut le mettre en dehors.
Merci. Merci professeur honorable Mouindo Nzangi, votre conclusion?
Nous sommes
membre de la commission COFIN.
Ce que nous pouvons faire, c'est qu'il faut... Nous allons accompagner, nous allons tenter d'accompagner s'il n'y a pas d'empêchement. Si on ne nous empêche pas de faire les contrôles, on va tenter d'accompagner que ça soit réalisable.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Willem Lungamba qui était à la technique. Merci à Kelly Nkute et Duna Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Alain Irung. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.